Radio Prague, les informations.
La journée de la Terre a été célébrée à de nombreux endroits en Tchéquie. L'ex-premier ministre tchèque Stanislav Gross a été nommé chef de la commission de sécurité du Parti social-démocrate. Le chef de la diplomatie, Cyril Svoboda, a ouvert à Toronto un nouveau consulat général de la République tchèque. La journée de la Terre, incombant ce samedi 22 avril, a été célébrée dans de nombreuses villes et communes tchèques. Les festivités à Brno se sont déroulées en présence du ministre de l'Environnement, Libor Ambrozek. Stanislav Gross, ex-chef de la social-démocratie et ex-premier ministre, a été nommé président de la commission de sécurité du CSSD. La direction de la social-démocratie estime que le retour de Gross, qui a dû quitter ses fonctions il y a un an à cause d'une affaire d'ordre financier concernant sa personne et son épouse, ne risque pas de léser le parti près de 6 semaines avant les élections législatives. Le chef de la diplomatie, Cyril Svoboda, a ouvert sa visite de 4 jours au Canada en inaugurant un nouveau consulat général de la République tchèque à Toronto. À cette occasion, les écrivains tchèques Josef Škvorecký et Zdena Salivarová, établis depuis plus d'une trentaine d'années au Canada, se sont vus attribuer le prix Gracias Agit pour la propagation de la bonne renommée de la République tchèque dans le monde. L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne aurait une importance stratégique, un constat du sénateur Josef Yashap, chef du groupe des affaires étrangères au Sénat, à l'issue d'un débat qui s'est déroulé cette semaine sur ce thème sur le sol de la chambre haute du Parlement tchèque. Améliorer de façon active la mauvaise situation de la minorité roman en Tchéquie, voilà le thème d'une conférence qui a eu lieu à Rokycany en présence de quelques 500 Roms. Une conférence consacrée au 15e anniversaire de la fondation du Parti civique démocrate, l'ODS, premier parti de droite en opposition, s'est poursuivie ce samedi à Olomouc. Les représentants du parti ont lourdement critiqué le nouveau code du travail adopté vendredi par la Chambre des députés. L'association Civic Forum a organisé à Prague une rencontre sur le thème de la place des femmes tchèques dans la vie politique. Ses participants ont insisté sur la nécessité d'introduction des quotas de femmes. Sport, le club pragois Sparta a gagné pour la 7e fois l'Extraligue tchèque de hockey sur glace. En finale, il a battu un autre club pragois, Slavia 3-0. Météo, un ciel assez couvert et des averses locales marqueront la météo ce dimanche, le jour de fête de Vojtěch Adalbert, dans le calendrier tchèque. C'était le journal préparé par Alena Gabertová.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Je suis un des rares créateurs non désespérés, c'est rare en Europe, dit l'homme de théâtre français Olivier Py, qui a assisté ce mercredi au théâtre Ponet à Prague à une lecture de sa pièce intitulée Fausse Nocturne. Dire qu'Olivier Py est un homme de théâtre serait réduire considérablement l'étendue de ses activités. Ce comédien, un metteur en scène, est aussi auteur de nombreuses pièces, dont certaines choquent par leur originalité et leur démesure. Il a mis également en scène plusieurs opéras et réalisé des films pour Arte. Le théâtre basé sur la poésie reste cependant le noyau de ses activités et de ses ambitions. Il s'en est confié à Radio Prague à l'issue de la lecture de sa pièce « Fausse nocturne » et d'un débat avec le public au théâtre Ponet.
Quel est le rôle que le théâtre joue dans votre vie?
Ah ben, c'est ma vie. J'ai pas d'autre vie que le théâtre, même si je fais des choses différentes, pas seulement du théâtre, mais aussi de l'opéra ou du music-hall. Pourtant, le centre de ma vie, c'est le théâtre. Le centre de mon écriture, c'est l'écriture théâtrale. Il a été, pour moi, l'équivalent d'une religion. Quand j'étais adolescent, j'avais deux rêves. C'était une vie entièrement consacrée à la prière, et l'autre possibilité, c'était le théâtre. Alors comme je n'avais pas la patience, d'un grand mystique, je ne sais pas, les choses se sont décidées pour moi, et j'ai trouvé au théâtre la possibilité de continuer ma méditation, mon expérience intérieure, mon aventure spirituelle, et de ne pas le faire seul, de le faire avec des camarades. Donc c'est pour moi le lieu d'une aventure spirituelle que j'ai pas pu vivre dans la vie religieuse.
On vient d'entendre votre pièce Faust Nocturne. Faust, c'est un grand personnage bien connu, un personnage mythique qui a inspiré Goethe, Marlowe, etc. Qu'est-ce qu'il reste à dire de Faust encore? Pourquoi avez-vous choisi ce personnage?
Faust est un personnage, ce n'est pas un sujet. Je l'ai choisi parce que c'est une métaphore de l'homme qui cherche, de l'homme qui pose des questions, et puis du poète. J'ai resserré la pièce à trois personnages. Marguerite est un jeune homme et Méphisto est un autre amant de ce vieux poète qui est Faust. Je me suis aussi projeté à travers ces trois âges dans ces trois personnages. On gagne toujours du temps vis-à-vis du public quand on prend des personnages qui ont déjà un héritage littéraire. Je crois que le personnage de Faust, par-dessus tout, c'est l'homme qui cherche. C'est l'homme qui pose des questions, pas simplement d'ordre théorique, mais qui cherche dans sa vie, dont la vie elle-même, dont la douleur, dont le désir est une question. Donc ça peut être un vrai personnage de théâtre, enfin... Ça peut être encore un personnage de théâtre.
Cette pièce n'a pas encore été mise en scène. Est-ce qu'on peut parler d'une première aujourd'hui?
Non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas lu la totalité de la pièce, qu'on en a lu de très larges extraits, qu'on en a lu les 4/5. Et puis je crois qu'une lecture n'est pas une représentation. On ne peut pas dire ça. D'abord, c'était des lectures avec une seule voix. Et je crois que c'est important de l'entendre redistribuer entre les trois personnages qui sont trois âges différents. Non, on ne peut pas dire ça. La première aura lieu dans un an pratiquement.
Est-ce que cette lecture vous a donné quand même quelques idées pour la mise en scène?
Ah oui, énormément. Par contre, c'est presque une des premières fois que j'entends le texte et puis que j'entends Philippe Girard lire le rôle qu'il jouera. Donc oui, ça m'a fait rêver, d'autant plus que je l'entendais en tchèque et je ne comprenais évidemment pas tout. Je pouvais me repérer par moments, mais j'aime beaucoup ça. De toutes les façons, j'aime beaucoup entendre du théâtre dans des langues que je ne comprends pas. Je m'ennuie pas du tout, c'est très très propice à ma rêverie. Oui, bien sûr, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que nous ferons dans un an.
J'ai lu une interview avec vous dans laquelle vous avez été très critique vis-à-vis de la civilisation actuelle, vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi vous êtes aussi critique et aussi dur avec le monde dans lequel nous vivons?
Parce qu'il est ennuyeux. C'est un monde terriblement ennuyeux. Ce monde qui a remplacé la prière ou la révolution par du shopping est un monde terriblement ennuyeux. C'est pas particulièrement que je l'exècre parce qu'il serait plus violent. Après tout, le XXe siècle a sans aucun doute vécu des temps plus violents. C'est simplement que les destins sont fermés. C'est un monde dans lequel les hommes pensent qu'ils ne peuvent pas agir, dans lequel ils pensent qu'ils ne sont pas libres, donc ils s'ennuient. Le monde marchand, le monde mondialisé est surtout un monde où l'on s'ennuie. Et il faut qu'on s'ennuie pour faire du shopping. Donc ce shopping provoque de l'ennui et cet ennui provoque du shopping. Et ça c'est l'opium des peuples aujourd'hui.
Comment vous réussissez à vivre dans ce monde?
Moi je fais du théâtre, donc je suis dans un lieu non pas qui résiste mais simplement qui continue, qui est dans l'héritage, qui a un héritage culturel, qui pose encore des questions. C'est un monde qui jouit puisque c'est un monde qui pense. Au fond, ceux qui ont encore de l'énergie spirituelle, ils savent où trouver des compagnons pour continuer à vivre. Mais ils sont de moins en moins nombreux.
C'est donc le théâtre qui peut rendre notre monde plus vivant, plus vivable.
Je ne suis pas certain que le théâtre puisse faire grand-chose pour le monde. Pour le monde, il fait du théâtre, c'est bien suffisant. Et il le fait forcément pour une minorité, pas pour la majorité. C'est ainsi, la majorité, elle, est devant la télévision. Mais il le fait, bien sûr. Cette aventure du poème, tant que le théâtre reste une aventure aussi, parce qu'il y a aussi un théâtre qui n'est pas une aventure spirituelle, tant que cette chose est là, il y a des hommes qui s'ennuient pas, qui sont pas sans douleur, mais qui sont pas sans joie aussi.
Aujourd'hui, vous êtes à Prague, une ville en pleine transmutation qui cherche à ressembler à ses modèles occidentaux. Quelle est votre impression de Prague ?
Je trouve Prague moins mondialisée que d'autres grandes capitales européennes. Je m'attendais à pire, pour tout vous dire. Peut-être parce que j'ai pas connu Prague il y a 10, 15 ans, ni 20, ni 30, donc je vois pas la différence, mais cette ville a une telle richesse culturelle, une telle force, ne serait-ce que par son architecture, que non, je pense que cette ville n'a pas été détruite par la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été détruite par le communisme qui a fait des ravages en termes d'urbanisme. Alors je pense qu'elle va aussi résister au grand capital et à la mondialisation, à McDonald's. Oui, moi j'ai confiance.
C'était une rencontre avec l'homme de théâtre français, Olivier Py. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Erka Fikerlova, réalisation technique, et à Petr Pokorny, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Après nous être intéressés à l'aigle,
orel,
et à l'oie,
husa,
nous allons poursuivre notre recherche d'expression de la langue tchèque relative aux oiseaux,
ptáci.
Et pour cette fois, c'est notamment le pigeon,
holub,
et le canard,
kachna,
qui seront à l'honneur.
Věží i slavobrán. Holubům, zpráva všem holubům. Leďte blíž na jednou...
En français, le mot pigeon est souvent employé familièrement pour désigner quelqu'un qu'on attire dans une affaire pour le rouler dans la farine, c'est-à-dire le duper, en faire ce qu'on veut. On dit alors qu'il est le pigeon dans l'affaire. On ne retrouve pas ce sens figuré dans la langue tchèque, mais il peut évoquer d'autres significations. Par exemple, lorsque l'on vend, promet ou dispose d'une chose que l'on ne possède pas encore, on pourra dire que l'on vend un pigeon sur le toit.
Prodává holuba na střeše.
Cette expression peut s'expliquer par le fait qu'un pigeon sur un toit est toujours prêt à prendre son envol. En français, l'équivalent est le célèbre « vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Toujours à propos d'oiseaux sur le toit, il existe une autre expression qui veut que les moineaux le chantent déjà sur le toit.
O tom si už zpívají vrabci na střeše.
Plus simplement, vous pourrez également entendre les Tchèques dire que les oiseaux le chantent déjà.
Ptáci už o tom zpívají.
En fait, ces deux expressions signifient qu'une information dont on pensait qu'elle était nouvelle est en fait déjà connue de tous. Bref, il s'agit donc ni plus ni moins d'un secret de polichinelle. De quelqu'un de paresseux qui veut vivre comme un coq en pâte sans devoir travailler, les Tchèques diront parfois
« Čeká, až mu pečení holuby přiletí do huby ».
C'est-à-dire, traduit littéralement, qu'il attend que les pigeons rôtis lui atterrissent dans la gueule. En fait, en français, l'équivalent est plutôt qu'il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec. Une autre expression très semblable,
Létají mu pečení holuby do úst,
soit les pigeons rôtis lui tombent dans la bouche, signifie quant à elle que le coq en pâte en question se porte très bien. Merci pour lui.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům. Stával v údolí mém starý dům, ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum.
Autre volatile avec l'oie que les Tchèques aiment voir rôti dans leur assiette avec une bonne louche de chou noyé dans le jus de viande, le canard.
Kachna.
Comme en France, en République tchèque, une certaine presse à scandale aime lancer ce qui s'appelle des canards, c'est-à-dire des bobards, des fausses nouvelles pour abuser le public. En revanche, vous n'entendrez jamais un Tchèque dire qu'il a acheté ou qu'il lit son canard en évoquant un journal de peu de valeur, de mauvaise qualité. Ce sens figuré n'existe tout simplement pas. Mais pour en revenir à l'idée de nourriture, il existe une expression très courante qui veut que certains Tchèques aient un estomac de canard.
Ma žaludek jako kachna
ou
ma kachni žaludek.
Vous l'aurez deviné, cela indique que l'estomac de la personne en question digère tout ce qu'on lui donne. Et sans vouloir critiquer la gastronomie tchèque très consistante, admettons tout de même qu'il convient en effet d'avoir parfois un estomac de canard pour ingurgiter certains plats. Enfin, pour en terminer avec ce sympathique palmipède, signalons encore que les Tchèques savent aussi se dandiner, ou ont parfois les pieds de travers, ou en canard, avec la pointe tournée vers l'extérieur et marchent comme un canard.
Idea kokachna.
Voilà, c'est donc en quelque sorte avec les charlots tchèques que prend fin ce tchèque du bout de la langue et cette deuxième partie de notre petite série consacrée aux expressions et comparaisons se rapportant à différentes espèces d'oiseaux.
Ptáči.
En espérant ne pas vous avoir raconté de bêtises ou même, pour être plus précis, de conneries, ce que les Tchèques appellent
ptákoviny,
mot qui n'existe pas en français et qui est impossible à traduire mais dont la racine possède un rapport avec le mot oiseau,
pták,
et en attendant de vous retrouver pour la suite de cette étude, portez-vous du mieux possible,
mějte se co nejlíp,
portez le soleil en vous,
slunce v duši,
salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Jarka Gisubelova.
Bienvenue à l'écoute en compagnie de vos lettres, courriels, rapports d'écoute, questions et suggestions. Commençons avec la lettre de Monsieur Jacques Augustin de France. Actuellement, la radio fonctionne au ralenti en raison de quelques jours de vacances en Bretagne, terre accueillante et pays des marins par excellence, sans oublier la culture celtique. Néanmoins, je n'oublie pas la correspondance et je pense qu'un échange écrit encourage toujours l'amitié avec Radio Prague, dont je salue le 70e anniversaire. Je souhaite que la commémoration de cet événement fasse l'objet d'une carte QSL spéciale. Ce serait un geste sympathique pour le mois d'août. Avant de terminer, je tiens à vous faire part de ma tristesse avec les inondations qui frappent cruellement la République tchèque. Précisément, j'aimerais savoir si les sinistrés des inondations sont indemnisés par l'État ou les compagnies d'assurance. Cela prend-il beaucoup de temps, car les dégâts ruinent parfois une famille, une petite entreprise. Fin de citation. Merci, Monsieur Augustin, d'avoir pensé à nous pendant vos vacances en Bretagne, un pays que j'aime beaucoup moi aussi. Merci de votre proposition de consacrer une carte QSL au 70e anniversaire de Radio Prague. Les inondations et les dégâts à présent. Sachez que seulement ce mercredi, l'état d'urgence décrété dans cette région tchèque et morave en raison des inondations printanières a été levé. D'ici 8 jours, les régions sinistrées doivent chiffrer les dégâts. Selon la loi adoptée mercredi dernier, l'État débloquera 5 milliards de couronnes à la compensation des dégâts. Les compagnies d'assurance évaluent de verser à leurs clients 2 milliards de couronnes. Les communes qui en font la demande bénéficient d'ores et déjà d'une aide du ministère de l'Aménagement du territoire. Une importante aide doit être apportée également par des banques. Celles-ci pardonneront le remboursement des prêts destinés à la réparation des maisons sinistrées par les inondations précédentes de 2002, au cas où les mêmes maisons ont été une nouvelle fois inondées. Les personnes qui sont assurées doivent obtenir le paiement dans les 15 jours après la fin de l'enquête. Merci dans ce courrier des auditeurs à Monsieur Jean-François Mail de France de ses rapports d'écoute détaillés, ainsi que de sa question dont la réponse est la suivante. Quelle est la différence de fabrication et de produit entre le cristal de Moselle, où il existe plusieurs cristalleries, et le cristal de Bohême? Le cristal de Bohême apparaît à la fin du XVe siècle. C'est un nouveau verre plus épais et plus dur par rapport au léger verre vénitien fabriqué depuis déjà le XIIIe siècle. La Bohême est devenue un centre mondial du verre de cristal au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Le verre clair et limpide, prédestiné par ses qualités à la gravure et la taille, s'est illustré parmi d'autres pendant tout le XVIIe. En 1724, le tailleur de verre Joseph Palme a reçu l'autorisation royale de fabriquer les lustres et ouvert le premier atelier de fabrication de lustres en cristal près de Kamenitsky-Chenov. À la première moitié du XVIIIe siècle, les lustres de Bohême ont conquis l'Europe et influencé l'évolution et le style des lustres. À l'origine, le cristal contenait comme fondant de l'oxyde de sodium. L'addition du plomb, un siècle plus tard, a amélioré les qualité optique du verre. Les lustres en cristal de Bohême brillaient et brillent dans les palais royaux, les parlements, les châteaux, les résidences gouvernementales, les universités, les salles de concert et les églises. La Scala de Milan, l'Opéra royal de Rome, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg ou le château de Versailles n'en sont que quelques exemples les plus connus. Chers amis, je consulte quasi régulièrement votre site internet et je voulais vous féliciter pour sa clarté, sa richesse et son actualité. C'est un vrai complément à l'écoute audio sur mon petit poste, nous écrit Madame Céline Lebec de France, que nous remercions beaucoup de ses résultats d'écoute. En Belgique, nous remercions Monsieur Christian Peters des rapports accompagnés des détails du programme diffusé. La poste électronique nous a fait parvenir les réactions immédiates au programme diffusé. Nous en remercions Monsieur Jean-Marie Monplot de France, Monsieur Sébastien Rahir et Monsieur Kevin Banchereau de Belgique et Monsieur Delesco de France. Nous saluons et remercions également d'autres fidèles auditeurs de Radio Prague, Monsieur Philippe Masson de France, M. Christian Guibaudeau de France, M. Bezazel Ferhat Ben Rabach et M. Kessadri Fatah qui nous capte en Algérie et M. Raman Biaou qui nous écoute en République du Bénin. On termine avec le grand concours 2006 que Radio Prague proclame à l'occasion du 70e anniversaire de sa fondation. Ce concours original sera basé sur vos capacités d'écoute et vos connaissances des sons. Nous vous ferons entendre 3 sons provenant de nos archives. Pour participer au grand concours, vous devrez identifier ces sons et écrire un court commentaire pour chaque son. L'auteur de la réponse juste, la plus originale, sera invité à un séjour d'une semaine à Prague pour 2 personnes. Les auteurs des meilleures réponses recevront des prix de valeur. Alexis Rosenzweig.
Tous ceux qui sont venus à Prague devraient reconnaître ce premier son. Mais si cela n'est pas le cas, il n'est pas difficile de découvrir quel est ce son.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
J'espère que vous l'avez reconnu. Le deuxième son évoque l'un des événements les plus dramatiques du XXe siècle dans l'histoire de Prague, un événement lors duquel la radio tchécoslovaque a joué un rôle très important.
Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Рада, товарищ! Красная армия! Нам нужна ваша помощь!
Et le troisième extrait représente un symbole du quartier de la vieille ville de Prague. Alors, vous avez déjà deviné de quels extraits il s'agissait? Si oui, vous devez envoyer vos réponses d'ici au 18 juin 2006 à l'adresse suivante, Radio Prague, Vinohradská 12, 120 99, Prague 2, République tchèque. Vinohradská 12, 120 99, Prague 2, République tchèque. Vous pouvez également utiliser l'adresse courriel cr@radio.cz. Une nouvelle fois, cr@radio.cz. Le séjour d'une semaine à Prague pour deux personnes est gracieusement offert par l'hôtel Falkensteiner Maria Prague, où une atmosphère familiale vous attend au cœur de Prague. La proclamation des vainqueurs sur les ondes aura lieu les 1er et 2 juillet 2006.
C'est tout dans cette émission. Nous vous remercions de votre fidélité à Radio Prague et à la prochaine sur nos ondes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.